Chapitre 5. Un rendez-vous tragique. Un matin, alors qu'il s'habille pour sortir, Géant, petit frère de Claude Frollo, s'étonne de trouver sa bourse un peu trop légère. Le jeu, la bière et les femmes l'ont complètement vidée. Il décide donc d'aller voir son frère l'archidiacre. Il devra écouter un long sermon, comme d'habitude. Mais il sait qu'à la fin, il obtiendra son argent. Cependant, Claude Frollo n'est pas dans l'église. Géant pense alors qu'il est peut-être dans cette fameuse cellule, sous les toits de la cathédrale, où l'on dit qu'il se réfugie souvent pour ses pratiques mystérieuses. Il décide de s'y rendre. La porte de la cachette est ouverte. Il suffit de la pousser pour pénétrer dans une petite pièce sinistre, encombré de récipients et d'objets insolites. L'archidiacre, se croyant seul, prenant en sa voix haute ses réflexions profondes.
Le feu est le principe de la vie. Le soleil naît du feu, la lune du soleil. La lumière et l'or ne sont que le feu à l'état concret. Mais comment retrouver la loi qui les génère? Un savant affirme que certains noms de femmes ont un charme si doux qu'il suffit de les prononcer pendant l'opération. Oui, en effet, Sophia, Maria, Esmeralda, damnation! Toujours cette pensée!
Il ferme son livre avec violence. Il prend sur la table un clou et un petit marteau et commence à frapper.
Depuis quelque temps, toutes mes expériences échouent. Il suffit d'une seule misérable pensée pour rendre un homme faible et fou. J'ai dans ma main le marteau magique et je prononce la formule « Emen etan ». Non, ce n'est pas cela. Si j'ai annie... Que ce clou ouvre la tombe à celui qui porte le nom de Phébus. Malédiction ! Toujours éternellement la même idée !
Il jette le marteau avec colère et se met à entailler dans la pierre les mots « fatalité » et « impureté ». Puis il se laisse tomber dans son fauteuil, épuisé et vaincu. Géant recule de quelques pas et fait du bruit derrière la porte pour annoncer sa présence. Claude l'entend et lui dit d'entrer. Mais il est surpris de voir son jeune frère au lieu de la personne qui l'attendait, Maître Charmolue, le procureur du roi.
« Que venez-vous faire ici ?»«
Je viens vous demander mon sermon habituel. J'en ai grand besoin. Et... un peu d'argent, puisque j'en ai plus besoin encore.
Je suis très mécontent. Tous les jours, on m'apporte des doléances sur votre compte. Vous dilapidez votre fortune dans les tavernes. Allez-vous-en. Vous n'aurez plus un sou de moi, misérable impur.
Je vous promets que dorénavant, je serai un étudiant modèle.
Un bruit, derrière la porte, interrompt la conversation.
Voilà une personne importante qui vient me voir. Cachez-vous. Ne bougez pas. Et surtout, ne révélez pas un mot de ce que vous entendrez.
Si vous voulez mon silence, ça va vous coûter cher.
Prenez donc cette bourse. Cachez-vous sous la table et ne bougez plus.
Maître Charmolue entre. La conversation porte sur le secret qu'un magicien aurait dû révéler au juge. Mais il y a aussi un autre sujet à traiter.
À propos, quand voulez-vous que je fasse arrêter la petite magicienne aux beaux yeux noirs? Sa chèvre a des cornes du diable. Elle lit, elle écrit, elle sait compter. Cela suffirait à les faire pendre toutes les deux. Le procès est déjà prêt.
L'archidiacre pâlit et articule avec difficulté.
« vous dirai cela. Sortons maintenant. »
Les deux hommes partis, Jehan vérifie avec satisfaction le contenu de la bourse, puis se précipite dans la rue. Son frère et Charmolue sont encore tout près lorsqu'on entend quelqu'un crier une série de jurons. Jehan reconnaît son compagnon.
« Capitaine Phébus de Châteaupers, calmez-vous et venez boire avec moi. »«
Je veux bien, mon ami, mais je n'ai pas d'argent. » « Ah, mais je vois que vous, vous avez de quoi vous amuser en compagnie. Qui avez-vous dévalisé cette nuit pour avoir une bourse aussi bien remplie ?»«
C'est que j'ai un frère archidiacre et imbécile. Allons nous amuser, c'est lui qui paie. »
Au son du nom de Phébus, ce nom maudit, le prêtre congédie rapidement Maître Charmolue et se met à suivre discrètement les deux jeunes gens. Au détour d'une rue, le son d'un tambourin interrompt brusquement la conversation.
« Corne du diable, la bohémienne. Il ne faut pas qu'elle me parle dans la rue. »«
Quelle bohémienne, Phébus ? Esmeralda ? Vous la connaissez ?»
Phébus dit quelque chose à l'oreille de son ami. Il éclate de rire et prend un air triomphant.
J'ai rendez-vous ce soir avec elle à 7 heures, et je suis sûr qu'elle viendra. J'ai prévenu la vieille Falourdel que je prends une chambre dans sa maison sordide du pont Saint-Michel.
Le visage caché sous le capuchon de son manteau noir, l'archidiacre entend toute la conversation. Il doit s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Dans sa tête, un projet sinistre commence à prendre forme. Il attend donc patiemment à la sortie de la taverne. Un peu avant 7 heures, dans la rue déserte, Phébus se met en chemin. Il s'aperçoit assez rapidement qu'une ombre le suit. Il n'a pas d'argent et il n'a pas peur des voleurs. Il s'arrête. L'ombre s'arrête aussi, près de lui, immobile comme une statue. Il lui vient alors à l'esprit l'histoire d'un moine bourru qui terrorise le peuple.
« Monsieur, si vous êtes un voleur, comme je l'espère, adressez-vous à côté. Je suis complètement fauché. »
La main de l'ombre s'abat sur le bras du capitaine.
« Capitaine Phébus de Châteaupers !»«
Comment diable ? Vous savez mon nom ?»«
Je sais beaucoup plus que votre nom. Vous avez un rendez-vous dans un quart d'heure chez la Falourdel. Comment s'appelle la femme que vous attendez ?»«
Esmeralda. »
« Capitaine Phébus de Châteaupers, tu mens !»«
Par tous les satans ! Ça alors ! C'est une injure digne de l'épée. Le sang va couler.
Capitaine, vous oubliez votre rendez-vous. Demain, après-demain, dans un mois, je suis prêt à vous couper la gorge. Mais allez d'abord à votre rendez-vous.
Grand merci pour votre courtoisie. Ah, corne de Satan, j'oubliais un petit détail. Je n'ai pas un sou pour payer la Falourdel, et elle voudra être payée d'avance.
Voici, prenez cet argent, mais à une condition. Prouvez-moi que vous ne mentez pas. Laissez-moi voir qui est vraiment cette femme.
Oh, cela m'est bien égal. Vous êtes peut-être le diable en personne, mais soyons bons amis ce soir. Demain, je vous paierai tout ce que je vous dois, de la bourse et de l'épée. »
Chez la Falourdel, Phébus paie la chambre avec l'écu de l'archidiacre. La vieille femme range précieusement la pièce dans un tiroir et monte avec les hommes. C'est alors que son fils, profitant de l'absence de la vieille, prend l'écu et laisse à sa place une feuille d'arbre sèche. L'archidiacre s'installe dans une cachette d'où il peut voir tout ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Au bout de quelques minutes, Esmeralda arrive. Claude Frollo, l'archidiacre à l'âme austère, tremble. Son cœur bat si fort qu'il finit par s'évanouir. Quand il revient à lui, il entend Esmeralda dire des mots d'amour à Phébus. Toute rouge, elle n'ose pas lever les yeux.
« Je sens que ce que je fais est mal. Ne me méprisez pas, Monseigneur Phébus. Je manque à une promesse et je ne retrouverai plus mes parents. Mais qu'importe à présent ? Je vous aime. Vous êtes toute ma vie. J'apprendrai votre religion. Ainsi nous pourrons nous marier. »
« Nous marier ? Écoutez, ma chère Similar, Esménard, oh, enfin, je ne comprends rien à votre discours. Je vous aime aussi, mais quel besoin de nous marier ? Vous serez à moi, pour la vie. Laissez-moi vous adorer, vous toucher. »
Phébus veut la déshabiller. C'est à ce moment-là que l'archidiacre défonce la porte et se précipite avec furie sur les deux amants. Esmeralda voit apparaître une figure livide au regard de damné. Une main serre un poignard qui s'abat sur le jeune homme. La pauvre fille, pétrifiée par cette scène, n'a même pas la force de pousser un cri. Elle tombe, évanouie, à côté du capitaine et sent comme un baiser brûlant se poser sur ses lèvres. Elle se réveille quelques minutes plus tard, entourée de gendarmes. Phébus a disparu. Il ne reste de lui qu'une large tache de sang par terre. « C'est une sorcière ! Elle a poignardé un capitaine ! Arrêtons-la !»